Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Autriche, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, l'Est de la France aussi. Chaque année, durant la nuit du 5 au 6 décembre, la tradition raconte qu'il descend du ciel et entre dans les maisons par les cheminées pour distribuer des friandises aux enfants sages. C'est Saint-Nicolas. Et malgré l'épidémie de Covid-19 particulièrement sévère en Belgique, on a dépassé les 7000 décès lors de la seconde vague dans le royaume. C'est officiel, Saint-Nicolas sera là, Lakshmilota.
Les ministres de l'Intérieur et de la Santé ont écrit une lettre officielle destinée à Saint-Nicolas. Elle a été publiée dans les médias belges. La lettre commence ainsi. « Cher Saint-Nicolas, cela nous a fait grand plaisir lorsque nous avons appris que malgré votre grand âge, vous avez pu échapper au virus ces derniers mois et que vous êtes toujours en bonne santé. » En Belgique, une quarantaine est obligatoire lorsque l'on arrive d'une zone dite rouge à l'étranger. Un couvre-feu est aussi en vigueur depuis plusieurs semaines entre 22h et 5h du matin. On imagine mal dès lors Saint-Nicolas et le Père Fouettard réussir leur distribution de friandises, de cadeaux ou de punitions. « Nous avons décidé de faire une exception », écrivent les ministres dans leur courrier. Saint-Nicolas est exempté de quarantaine et de couvre-feu. Un arrêté royal sera même publié au Moniteur belge à cet effet, indiquent très sérieusement Annelies Verlinden et Frank Vandenbroek. Les ministres demandent toutefois aux grands saints de bien vouloir, je cite, « garder ses distances, se laver les mains régulièrement » et porter un masque quand c'est nécessaire. Mais là encore, une exception est possible, car on peut lire dans cette lettre qu'un virologue espagnol a estimé que la longue barbe blanche de Saint-Nicolas le protégeait du virus et faisait office de masque. Et le Père Noël dans tout ça, vous demandez-vous? Eh bien, le caricaturiste Pierre Kroll dessine dans Le Soir des rennes qui demandent au Père Noël « Et nous alors ?» C'est encore trop tôt pour nous, le ministre Vandenbroek ne m'a pas encore écrit, répond malicieusement le confrère de Saint-Nicolas.
Le courrier international de cette semaine avec Ingrid Tervat. Ingrid, direction la Biélorussie pour commencer. La Biélorussie où l'élection présidentielle du mois d'août dernier continue de diviser le pays entre partisans et opposants du président Loukachenko.
Juliette, je vous amène en effet à Minsk, la capitale biélorusse, pour vous parler de violences policières. Là-bas, c'est le règne de la terreur et ce n'est pas moi qui le dis, mais le très sérieux journal russe Novaya Gazeta. D'un côté, la majorité des habitants qui s'opposent à la réélection, qu'elle estime truquée, de Loukachenko, et de l'autre côté, tout l'appareil répressif, police en tête, de ce régime autoritaire. Dans les cours des immeubles, les gens tendent des rubans rouges et blancs, les couleurs de l'opposition, ou parfois suspendent des caleçons en alternant les couleurs, en mettant un caleçon rouge, un caleçon blanc. Et immanquablement, les sbires de Loukachenko viennent les enlever. Selon Novaya Gazeta, je cite, « la police est de plus en plus enragée. Les Biélorusses de plus en plus déterminés. » Et c'est le principal constat que l'on peut tirer de ces 100 jours d'affrontement. Les habitants de Minsk ne fuient même plus les grenades assourdissantes. Les jeunes filles montent docilement dans les fourgons.
On peut parler d'escalade dans cette crise?
En réalité, Juliette, les choses vont bien plus loin que quelques rubans ou caleçons arrachés. Par exemple, le 11 novembre dernier, l'artiste Roman Bondarenko a été assassiné par des proches de Loukachenko. Et l'identité des tueurs a pu être révélée grâce à des vidéos tournées au téléphone par des témoins. Novaya Gazeta parle de la plus grande opération de désanonymisation de l'histoire du pays, c'est-à-dire de révélation des noms et des visages de policiers. C'est donc la terreur qui règne en Biélorussie, malgré les preuves accablantes contre le régime. Je cite le journal russe à nouveau. On peut être assassiné en sortant simplement un soir dans la cour. On peut être arrêté en allant faire ses courses, molesté en raccompagnant sa copine chez elle, et s'estimer heureux de s'en sortir vivant, chanceux de s'en tirer avec 15 jours d'emprisonnement et pas de mise en examen, et vraiment verdi de n'écoper que d'une amende. Plus besoin de raison. Mais pour une certaine catégorie de la population, la violence policière ne s'abat pas au hasard. Cette catégorie, ce sont les journalistes qui sont, je cite, victimes de violences à chaque manifestation. Arrêtés, torturés, jetés en prison pour 10 voire 15 jours. Voilà donc la situation à Minsk où le régime met des moyens colossaux au service de la répression. Et pourtant, cela reste, comme le souligne Novaya Gazeta, un comportement de voyou avant la débandade. Une débandade que la population, évidemment, attend avec ferveur.
Depuis quelques années et jusqu'à cet été, on entendait plutôt parler de la Biélorussie comme de la future Silicon Valley de l'Est. Est-ce que c'est toujours le cas, malgré les troubles politiques ?
Oui, en un peu plus d'une dizaine d'années, le régime a réussi à créer un miracle technologique et économique qui commence tout juste à se retourner contre lui. En 2005, Loukachenko a créé un parc des hautes technologies qui est devenu un véritable moteur économique. Ce parc regroupe aujourd'hui près de 900 entreprises, plus de 63 000 spécialistes et il représente 5,5% du produit intérieur brut biélorusse. Là-bas, les ingénieurs sont recrutés pour des salaires qui dépassent parfois les 2000 euros par mois dans un pays où le salaire moyen mensuel n'est que de 456 euros. Mais voyez-vous, et c'est le magazine de Vilnius IQ Intelligent Life qui le précise, le secteur des technologies de l'information crée avec le consentement de Loukachenko, est devenu l'un des plus puissants moteurs du mouvement de contestation actuel. Et en fait, ça s'explique assez facilement. Tous ces spécialistes dont je vous parlais sont des ingénieurs, des salariés du privé, pas des fonctionnaires. Ils ne dépendent donc pas financièrement du régime. D'ailleurs, 300 d'entre eux viennent de rédiger une lettre ouverte à Loukachenko lui demandant d'arrêter la répression et promettant, si le président ne le fait pas, de s'en aller, oui, de s'en aller, de délocaliser. Justement, la Lettonie voisine les attend à bras ouverts. Bref, vous voyez, cette crise en Biélorussie a bien plus de répercussions qu'on l'imagine.
Nous sommes en pleine crise économique, sociale et sanitaire, mais le prochain affrontement européen, Ingrid, ce sera peut-être le ski.
Juliette, pendant que la Biélorussie se déchire, que les Britanniques se préparent au Brexit et j'en passe, une question divise les Européens du continent à cause de la pandémie de Covid-19. Cette question, c'est : la guerre du ski aura-t-elle lieu ? Eh bien oui, Juliette, elle aura lieu, cette guerre du ski, et c'est ce qu'explique le quotidien Il Giornale à Milan. En effet, un nouveau dilemme alimente les discussions entre les 27 États membres de l'Union européenne. Ce dilemme, c'est : faut-il autoriser, oui ou non, malgré le Covid-19, l'ouverture des stations de sport d'hiver pour les congés de décembre ? Alors, pour l'Allemagne et l'Italie, c'est non, et les deux pays voudraient même arriver à un accord européen, histoire de ne pas favoriser un pays. Oui, sauf que l'Autriche, d'une part, et la Suisse, d'autre part, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, veulent ouvrir leurs stations. À Bruxelles, le site d'information Politico souligne que la France fait figure d'outsider avec ce qu'il qualifie de solution créative, c'est-à-dire ouvrir les stations de ski à Noël, mais fermer les remontées mécaniques. Donc, le ski sans le ski. Créative, c'est gentil, et c'est un petit clin d'œil pour finir cette chronique.
Merci Ingrid Tervat. Des articles à lire dans Courrier International, avec en une cette semaine un dossier sur le virage sécuritaire du président Macron, vu par la presse étrangère. À bientôt.
Arrivé à Tarifa, au bout de tout.
C'est un coin de paradis préservé sur le littoral espagnol, la côte gaditane. Cette région côtière du sud de l'Espagne n'a pas été bétonnée jusqu'ici, mais la crise économique pourrait bien forcer les communes à accepter des projets immobiliers dangereux pour son équilibre environnemental. C'est un reportage de François Musso.
Parcourir et longer le littoral de Cadix est une véritable expérience esthétique. C'est une succession de plages vierges, de falaises étourdissantes, de pinèdes d'un beau vert pâle, de baies élégantes. Arrêtons-nous à Tarifa, près de 20 000 habitants, à l'aspect très arabo-andalou. Au sortir de la bourgade, la baie est magnifique, qui se termine par l'immense dune de Maspalomas. Or, ce paradis est en péril. Pas moins de 5 projets d'urbanisme menacent d'enlaidir ce littoral préservé. Paqui tient l'hôtel Alameda, tout près du port de Tarifa, où les ferries partent pour Tanger.
Moi, je crois que les habitants ici, en majorité, ne sont pas d'accord pour que la commune absorbe tout ce littoral sauvage. Si toute cette partie vierge commence à s'urbaniser, si on perd tout cela, alors le charme de Tarifa disparaîtra. Et cela ne se récupère pas.
Paqui traduit l'inquiétude d'une bonne partie de la population. Une autre partie, il est vrai, défend la possibilité de construire des urbanisations et des resorts afin de créer des emplois, afin de générer de l'activité économique, disent-ils, alors même que la pandémie a condamné beaucoup de gens au chômage technique, voire tout simplement à des aides publiques qui ne dépassent pas 300 euros par mois. Si la construction revenait, se disent certains, cela permettrait de créer au moins un peu de richesse. Le maire, Francisco Ruiz, défend officiellement qu'il faut maintenir la Côte Vierge, comme Paqui, pour ne pas dénaturer Tarifa. Mais dans la pratique, il laisse ouverte la possibilité d'ériger des complexes hôteliers. C'est en tout cas la crainte des organisations écologistes. Juan Clavero est le responsable régional d'Ecoloristas en Acción, le plus actif en la matière.
La grande menace, ce sont plusieurs projets de construction paralysés le temps de la bulle immobilière de 2008. Et aujourd'hui, au lieu de les annuler définitivement, ce qui serait logique, ce que les politiques tentent de faire et font, c'est de les réactiver en donnant de nouveaux délais. Sans compter qu'en parallèle, de nouveaux projets sont en train d'être présentés.
Il en veut pour preuve d'autres projets qui pullulent le long de la côte. En poursuivant la route vers Cadix, on tombe sur un bout de littoral paradisiaque autour de Cabo Plana, une petite baie protégée par des falaises, surplombée par des maisons d'architectes. C'est là qu'un autre projet a été présenté. Deux terrains de golf, une centaine de places hôtelières, près de 300 villas adossées les unes aux autres, au total 2 millions de mètres carrés urbanisés. Pour les écologistes, cela défigurerait le paysage, supposerait une massification du territoire, se heurterait au manque d'eau. Ce serait la fin d'une situation exceptionnelle et cela ressemblerait à la Costa del Sol, plus à l'est, vers Marbella ou Malaga, avec ses tours et ses bars au bord des plages. Aux yeux de Juan Clavero, si ce projet et bien d'autres voyaient le jour, ce serait un retour en arrière, celui de la crise économique de 2008, lorsque la construction était le seul mantra en Espagne.
Ce serait revenir à la logique qui nous a conduit à la ruine économique et à la destruction d'une bonne partie de notre littoral et aussi à la destruction de cette côte, aussi bien au plan de la fréquentation touristique qu'au plan environnemental.
Ce qui jusqu'ici a permis de préserver le littoral gaditan, c'est sa situation singulière. La côte est bordée d'une succession de parcs naturels et de terrains militaires inconstructibles. Les écologistes s'en réjouissent, ce sont pour eux des garde-fous. Mais les maires des bourgades, eux, se lamentent de ce qu'ils voient comme des obstacles à tout développement possible. C'est le cas de Barbate, belle commune connue pour sa pêche traditionnelle au thon, mais aussi pour son taux de chômage très élevé, plus de 30%, et son économie parallèle liée au trafic de haschich avec le Maroc. L'élu chargé de l'environnement, de la pêche et de l'urbanisme, Enrique Alvarez, est lui en colère contre les écologistes.
83% du terrain communal est occupé par un parc naturel, des marécages et des terrains militaires. On n'a donc pas de marge pour se développer. Tout le monde par ici vit du tourisme. Or, nous n'avons pas d'hôtel, nous n'avons pas de quoi loger les gens qui viennent visiter le parc naturel. Et c'est le grand problème de Barbate.
Il y a donc deux positions a priori irréconciliables. Celle des écologistes et de nombreux habitants pour qui, si on ne préserve pas la côte gaditane, ce sera la fin d'une merveille de la nature et la victoire amère du modèle des villes touristiques. Et d'autre part, la position des maires et de tous ceux qui, en pleine crise économique, ne voient d'autre issue que la construction comme modèle de développement. La région Andalousie semble avoir choisi la deuxième option. Elle prépare une loi qui facilitera énormément la tâche aux constructeurs en enlevant de nombreux obstacles administratifs. Les écologistes ont de quoi être inquiets sur le sort de Cadix et de son littoral.
Allô, allô, ne quittez pas les... Allô, allô, ne quittez pas les... Quittez pas les... Allô, allô.
Le déploiement de la 5G commence en France en cette fin d'année et à côté de la toute dernière génération des réseaux mobiles, eh bien, il existe toujours en France des zones blanches en matière de téléphonie et de réseau Internet. Dans ces zones, le téléphone portable passe mal, Internet est lent, voire inexistant. C'est le cas dans certaines zones de la campagne Picarde, dans le nord du pays, comme dans le village de Caon, 200 habitants, où s'est rendu Lise Verbeck.
Dans le village, les habitants ont une particularité. Quand ils veulent passer un coup de fil, ils sont très patients.
On sort pas de la maison pour aller chercher du réseau, on reste dans la maison et puis on attend.
Et Internet, c'est comment ?
Internet, c'est pareil, on n'arrive pas toujours à capter, on attend, on cherche.
Mais pour certains, la patience a des limites. Surtout pour Valérian Dufresne.
Bonjour.
Il est auto-entrepreneur et conçoit des sites web. Avec sa femme et ses enfants en bas âge, ils se sont installés récemment ici, à Caon. Un vrai choix pour repeupler les zones rurales, mais avec un gros inconvénient.
On a dû passer sur deux box internet. Et forcément, c'est un budget colossal juste pour la connexion internet à la campagne, quoi.
C'est combien à peu près de votre budget vous...
Bah, là, c'est 75 euros en tout.
Parce que du coup, quand il y a une box qui marche plus, vous passez sur l'autre.
C'est ça. Et quand les deux marchent, bah, on perd énormément de temps. Et même au niveau de la qualité de la connexion, moi, au niveau de mon travail, je perds énormément de temps aussi. Parce que tous les transferts de fichiers à mes clients, dépendent de la connexion Internet, les transferts des fichiers en ligne aussi pour mettre en ligne les sites Internet. Et c'est vrai que sur l'année, on doit perdre peut-être 5 à 7 jours. Donc en sachant que mon tarif journalier moyen est à 350 euros, ça fait une sacrée perte de chiffre d'affaires sur l'année.
À deux pas de chez Valérien, il y a la mairie du village, là où viennent souvent toquer les habitants pour se plaindre du mauvais réseau téléphone et internet. Mais le maire, Yves Hautefeuille, est impuissant. Les opérateurs boudent le village.
On n'arrive pas, c'est désagréable, on n'arrive pas à appeler, on n'arrive pas à recevoir, on est coupé sans arrêt. Nous sommes au carrefour d'une vallée, de deux vallées, la vallée de la Somme et son affluent, la Trie. Et ce qui fait que dans cette énorme cuvette, je vais dire, eh ben, ça ne passe point.
Et lui-même en fait les frais.
Je fais sourire, c'est vrai, beaucoup de personnes quand j'annonce qu'il m'arrive de monter à l'échelle parce que j'ai remarqué que chez moi, il y avait un endroit où ça passait bien. Alors je monte à peu près 3 mètres et puis là, ça passe et je téléphone.
Mais l'année prochaine, le maire et ses administrés pourront au moins compter sur un meilleur réseau Internet. La fibre optique va arriver dans le village. Car les collectivités peuvent agir sur le réseau Internet grâce à Somme Numérique, un syndicat mixte qui construit des nœuds de raccordement optique dans le département. Et la fibre est devenue un enjeu majeur pour ces communes rurales, pour attirer les entrepreneurs et les familles.
On voit bien que la crise du Covid, on a eu un besoin de travailler chez soi.
Philippe Varlet, le président de Somme Numérique.
Et c'est quelque chose qui va être améliorer avec la fibre, forcément. Ensuite, il y a toutes les petites entreprises. Même les agriculteurs ont des problèmes parce qu'il y a des gros fichiers quand il y a toutes les aides PAC, etc. Et aujourd'hui, il y a certains agriculteurs de chez eux, ils sont impossibles d'envoyer leurs fichiers, ils sont trop lourds. Il y a aussi une chose importante, c'est le maintien à domicile. Maintien à domicile avec la fibre, des capteurs, etc. On va pouvoir aider les gens à rester le plus longtemps possible chez eux. Et ça, c'est très important.
Quant au problème de téléphonie, la balle est dans le camp des opérateurs qui rechignent à construire des pylônes dans les zones rurales. Ce n'est pas leur priorité. Il existe tout de même le New Deal mobile signé en 2018 entre l'État et les opérateurs qui est censé couvrir toutes les zones blanches d'ici 2022. Mais l'objectif risque d'être difficile à tenir car par exemple dans le département de la Somme, seulement 4 à 6 emplacements de pylônes sont proposés chaque année et chaque pylône nécessite 2 années de construction.
Gardez vos yeux fermés et écoutez.
Une chronique musicale empreinte de mélancolie aujourd'hui avec Vincent Teval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Vous nous emmenez en Suède.
Si la scène musicale suédoise n'est plus aussi bouillonnante qu'elle le fut à la fin des années 2000, certains de ses meilleurs artisans continuent patiemment à creuser leur sillon en dehors des modes et des enthousiasmes saisonniers. C'est le cas de Thomas Jonsson qui depuis 10 ans publie ses disques sous l'alias I'm Kingfisher dans un registre qui doit beaucoup à la country et au folk américain. Le 4e vient de paraître, il s'intitule The Past Has Begun et Thomas Jonsson y est à nouveau épaulé par le producteur Carl Edlom et une poignée d'amis musiciens qui habillent délicatement ses chansons où il est question de vieillir, entouré de souvenirs doux amers et tiraillé entre l'espoir et la mélancolie.
Hey there, Billy, with your eyes so blue. Don't afflict me in a firefight in your face. Sudden bursts of summer delight and yearn for the times you never had. On the day you lost your wings, I'm gonna put the thing together and risky being humble when you agree. Something appeared in the picture.
Fischer, Mess Minus Room avec Vincent Teval, Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.